Frères et sœurs, nous voilà donc à nous réjouir avec tous ceux du ciel autour du Seigneur et comme le contemple Saint Jean, nous nous réjouissons autour de l'agneau, le trône de l'agneau. Et ce qui fait la joie de cette fête, c'est justement que nous fêtons, comme toute fête liturgique, comme chaque dimanche, comme chaque grande fête de l'année, bien sûr, nous fêtons le Christ. C'est lui vers lequel se tournent nos regards. Mais nous fêtons aujourd'hui le Christ et ses membres, et ceux qui lui sont associés dans la gloire. Et c'est ça, la grande contemplation de Saint Jean, c'est ça, sa grande vision. C'est ce peuple immense qui entoure l'agneau, qui se prosterne devant le Seigneur. Et donc, nous fêtons ce peuple, ces membres du Christ, en regardant vers le ciel, en orientant notre regard vers, pas vers le ciel matériel, on comprend bien, hein, vers la vie éternelle, vers ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous sommes faits, frères et sœurs, nous sommes créés pour l'éternité. Et donc, nous regardons ceux qui nous ont précédés, nous contemplons ceux qui sont auprès de Dieu dans la gloire, et nous comprenons aussi que nous sommes, nous, dans cette fête. Alors nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous fêtons ceux qui triomphent avec le Seigneur au ciel, dans la gloire, et ceux qui marchent encore, ceux qui sont sur le chemin. Et c'est bien ça que nous pouvons retenir de ces deux lectures, de ces deux premières lectures. Tous ceux qui se tiennent devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches, les palmes à la main, ça sont ceux qui sont dans le triomphe de la gloire déjà. Et puis, nous dit Saint Jean dans sa première lettre, ceux qui sont enfants de Dieu, mais dont l'état n'est pas encore manifesté. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et donc, il y a encore un travail, il y a encore du temps pour que cette gloire soit visible. Voilà. Mais nous nous réjouissons d'être déjà, finalement, comptés parmi les saints, même si nous savons qu'il y a du travail encore. Et alors, l'Église aujourd'hui, comme évangile, nous fait entendre les béatitudes. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a ce mot de béatitude. On l'a traduit dans la lecture « Heureux, heureux vous les pauvres, heureux vous qui pleurez, heureux ». C'est plus que heureux, hein ? C'est pas juste heureux d'une petite joie terrestre. C'est bienheureux. Bienheureux serez-vous au ciel, bienheureux êtes-vous déjà maintenant au fond de vous-même de cette amitié avec Dieu ? La béatitude éternelle. C'est ça l'éternité. Le lieu où il n'y aura plus de pauvreté, plus de pleurs, plus de souffrances, plus d'injustice. Ce lieu auquel nous aspirons parce que Dieu sera victorieux du mal. Ça pourrait être la première raison pour laquelle nous entendons les béatitudes. Mais il y en a une autre. Dans ces béatitudes, il y a un certain nombre d'attitudes qui sont décrites. Le pape François, dans sa lettre sur la sainteté, disait que les béatitudes sont la carte d'identité du chrétien. Voilà un mot qu'on pourrait retenir aussi, une expression qu'on pourrait retenir. La carte d'identité du chrétien. Est-ce que je suis prêt à m'identifier à au moins une béatitude. Est-ce que je suis prêt à vivre ma vie chrétienne à l'école au moins d'une béatitude ? Et alors il m'est venu cette idée que quand on contemple tous les saints du ciel dans cette foule immense autour du Seigneur, on pourrait la contempler comme des spectateurs complètement étrangers à ce qui se passe. On pourrait voir, oui, ils sont très nombreux, mais on ne sait pas trop qui c'est. Peut-être que nous nous sentirions un peu plus concernés, un peu plus appelés à vivre les béatitudes, si nous étions capables de reconnaître parmi tous ceux qui sont là, tel ou tel, avec lequel nous avons un lien d'amitié. C'est important d'avoir un lien d'amitié avec un saint, ou avec plusieurs même, de cultiver la proximité avec ceux qui sont nos modèles, et qui du coup ont vécu, eux, ces béatitudes, les ont mises en œuvre, et aujourd'hui sont dans la gloire à ce titre-là. Alors je suis incapable de vous dire dans quel ordre ils se trouvent, qui il y a dans toute cette foule, mais je suis peut-être capable de vous dire ce que moi je reconnais. Et je me suis dit, tiens, je vais piocher un peu dans mon carnet d'adresse spirituelle, mes relations, pour vous dire qui je reconnais, moi, dans cette foule immense, à l'école des Béatitudes, pour vous inviter vous-même à en reconnaître aussi. Bienheureux les pauvres de cœur. Commençons par la première béatitude, les pauvres de cœur. Moi, je vois Sainte Bernadette de Lourdes, la petite Bernadette, celle qui a osé dire un jour, si la Sainte Vierge avait vu quelqu'un de plus pauvre que moi à Lourdes, c'est cette personne-là qu'elle aurait choisie. Voilà, Sainte Bernadette consciente d'avoir été choisie parce qu'elle était petite, pauvre, matériellement, mais pas seulement matériellement, humble surtout. Les pauvres de cœur sont les humbles, sont les amis de Dieu parce qu'ils s'élèvent au rang de Dieu au fur et à mesure qu'ils s'abaissent dans l'humilité. Bienheureux ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent sont ceux qui ont compassion des autres, ceux qui entendent les pleurs des autres. Et moi, je vois dans ceux qui pleurent un grand saint qui un jour a entendu les pleurs de quelqu'un, Saint Maximilien Kolbe, et qui a été l'apôtre de l'Immaculée Conception, de la Vierge Marie, de par le monde, pour appeler justement à la sainteté, et qui, croupissant dans un camp de concentration à Auschwitz, un jour sur les rangs, dans un moment sordide, où on désignait ceux qui allaient mourir, entend ce père de famille qui pleure parce qu'il a été désigné pour faire partie des condamnés à mort. Et Maximilien Kolbe, qui sait entendre ses pleurs, s'avance et dit « Je veux prendre sa place ». Et c'est ce qui se passera. Et il accompagnera jusqu'à la mort ses compagnons de condamnation, ses compagnons de cette chambre de la faim. Bienheureux ceux qui pleurent. Bienheureux les doux. Les doux ne sont pas les mous, hein. Les doux sont ceux qui font preuve de douceur alors que justement tout pourrait les inviter à la violence. Et moi je vois, parmi ces doux, j'en vois deux. Étonnamment, ils sont tous les deux du continent africain. Sainte Joséphine Bakita, petite esclave, ayant vécu des choses horribles, et ayant toujours gardé l'espérance, et toujours gardé cette douceur, devenue ensuite petite esclave soudanaise, devenue plus tard religieuse en Italie, et est reconnue par tous ceux qui la croisaient pour sa douceur, pour sa qualité d'accueil, alors que Dieu sait si elle avait été blessée, abîmée, mais ne répondant pas à toutes ces horreurs, toute cette violence par sa propre violence. Et puis j'en vois un autre dans les doux, c'est peut-être le connaissez-vous. Bienheureux Isidore Bakanja, congolais, chrétien, jeune chrétien, fouetté à mort par son maître, qui était blanc, temps de la colonie, et parce qu'il était chrétien, et mourant en disant « Je n'ai pas de haine pour celui qui me fait mourir ». Bienheureux Isidore Bakanja, heureux les doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Je vois Sainte Thérésa de Calcutta, elle qui, petit bout de bonne femme, toute fripée, on a tous l'image de Mère Thérésa en tête, parcourt le monde et annonce justement cette justice, cette paix. jusqu'à recevoir elle-même le prix Nobel de la paix, quand même, en 79, si je me trompe. Et à la fois un visage très, très apaisé, très, très rayonnant, très proche finalement de tous ceux qui l'écoutent, s'adressant aux plus petits comme aux plus grands, et toujours affirmant la dignité de la personne humaine depuis le plus petit âge, depuis la conception jusqu'à se mettre au service des mourants de Calcutta. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice sur cette terre. Heureux les miséricordieux, ceux qui font miséricorde, ceux qui portent la miséricorde. Moi, je vois, bien sûr, le Saint-Curé d'Ars et les heures qui passaient pour donner, partager la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la confession. Le Saint-Curé d'Ars qui réconciliait tant d'âmes avec le Seigneur. Mais je vois aussi une Sainte Jeanne Jugan qui sait se pencher sur la misère des plus pauvres. C'est ça la miséricorde aussi, hein. C'est se mettre au service de la misère, d'abord la misère matérielle, pour ensuite permettre justement la miséricorde dans les âmes. Sainte Jeanne Jugan commençant la fondation des Petites Sœurs des Pauvres en prenant sur son dos cette vieille femme qui croupissait toute seule, abandonnée, et qui lui donne son lit, et qui de là en vient fonder une communauté au service des personnes âgées pauvres. Et les Petites Sœurs des Pauvres qui aujourd'hui continuent l'œuvre de Jeanne Jugan et qui tous les jours prient, je les ai entendues, en demandant au Seigneur de prendre soin de ces personnes dont elles ont la charge, non pas seulement matériellement, même si c'est important bien sûr, mais aussi de leur donner de mourir en paix, de mourir dans la confiance. Voilà la miséricorde, d'accompagner jusqu'au bout les corps et les cœurs. Heureux les miséricordieux. Heureux les cœurs purs. Et moi je vois dans cette foule immense des saints le bienheureux Pier Giorgio Frassati, un Italien du Nord, jeune sportif, étudiant, qui avait pour devise verso l'alto, regardons vers le haut. Alpiniste, il est saint patron des montagnards d'ailleurs, et qui, cette pureté du regard, cet être tendu tout le temps dans sa vie vers ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, et lui mourant jeune de maladie, et dont on découvre finalement qu'il n'est pas seulement un beau parleur, un entraîneur, etc., mais on découvre au moment de ses obsèques tous les pauvres qui viennent là, parce qu'en fait, en cachette, discrètement, il s'occupait des pauvres. Et ce verso l'alto ne l'empêchait pas de regarder au plus proche de lui, les plus simples, les plus pauvres. Pier Giorgio Frassati. Heureux les cœurs purs. Et les artisans de paix. Les artisans de paix, je reconnais dans la foule des saints, Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II qui a parcouru le monde, qui a parlé aussi aux puissants, etc., qui a été un témoin infatigable de l'Évangile. Saint Jean-Paul II, dont on peut garder comme image quand même incroyable, au moment de ses obsèques, le nombre de chefs d'État qui ont fait le déplacement pour venir sur la place Saint-Pierre le jour de son enterrement. S'il n'était pas un apôtre de la paix, si cela ne témoigne pas de ça, de quoi est-ce que ça témoigne ? Saint Jean-Paul II, l'infatigable témoin du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Heureux êtes-vous. Heureux ceux qui sont persécutés, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Et moi je vois là, parmi bien sûr tous les martyrs, et ils sont nombreux, hein, encore nombreux aujourd'hui, ceux qui meurent pour leur foi, je vois de manière très simple, bienheureux Marcel Carrier, qui déporté, enfermé à Mauthausen, et meurt au moment de la libération même, non pas meurt d'épuisement, meurt de tous ces mauvais traitements. Pourquoi ? Parce que, dit la parole, enfin le verdict qu'il a condamné parce qu'il était beaucoup trop catholique. Beaucoup trop témoin du Christ. Et voilà, Marcel Callot qui meurt simplement, discrètement, dans le coin d'une infirmerie, et dont celui qui, le médecin qui est là, qui l'assiste au moment de sa mort, dit « J'ai vu le regard d'un saint. J'ai vu mourir un saint. » Dans la déchéance, la misère de ces camps de concentration. Et voilà, vous les voyez, tous ceux-là, ils sont là. Et j'en ai cité trop peu, hein, bien sûr, dans cette foule immense. Reconnaissez-les, vous aussi, tous ces saints qui nous précèdent. Faites-en vos modèles. Je ne vous ai pas donné tous les noms de mon carnet d'adresses, je vous garantis. Il y en a bien plus. Faites-en vos modèles. Marchez à leur suite, parce que eux marchent à la suite du Christ. Et laissez-vous entraîner par eux vers ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est éternel. Amen.